RFI. Religion du monde. Geneviève Delru.
Nos, vota fratris nostri Paulo Desfarge, archiepiscopi metropolite algeriensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'Église d'Algérie compte depuis hier 19 bienheureux, autrement dit 19 saints. Les 19 religieuses et religieux assassinés entre 1994 et 1996 dans cette décennie noire du terrorisme islamiste et de la guerre civile en Algérie. Malgré la menace qui pesait sur eux, ils avaient fait le choix de rester. C'est pourquoi la Congrégation pour la cause des saints et le pape ont reconnu leur martyr. La cérémonie de béatification s'est déroulée à Oran, au sanctuaire de Notre-Dame de Santa Cruz. Nous venons d'entendre la lecture du décret proclamant les 19 martyrs bienheureux par le cardinal Angelo Becciu, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, représentant du pape à Oran et qui présidait la cérémonie. Auparavant, Monseigneur Desfarge, archevêque d'Alger, avait lu la lettre du pape.
Chers frères et sœurs, ce samedi 8 décembre, l'Église en Algérie célèbre dans la joie la béatification de 19 religieux et religieuses martyrs. Je m'associe à votre action de grâce pour que ces vies, totalement données par amour de Dieu, du pays et de tous ses habitants, dont vous partagez l'humble quotidien dans un esprit de fraternité, d'amitié, de service. Recevez ici mes encouragements fraternels pour que cette célébration aide à panser les blessures du passé et crée une dynamique nouvelle de la rencontre et du vivre ensemble à la suite de nos bienheureux. Je suis très reconnaissant à Monsieur le Président de la République algérienne démocratique et populaire, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, et à ses collaborateurs, d'avoir facilité la célébration en terre algérienne de la béatification de Monseigneur Pierre Claverie et de ses 18 compagnons et compagnes, martyrs du plus grand amour.
Nous devions consacrer l'intégralité de l'émission à cet événement, émission dont l'enregistrement était prévu à Oran, mais n'ayant pas obtenu le visa, comme d'ailleurs bien d'autres confrères journalistes, nous ne sommes plus en mesure d'assurer cette version initiale, et ce sera seulement la première partie de l'émission qui rendra compte de cette première béatification en terre d'islam. Le téléphone, lui, n'ayant pas besoin de visa, nous entendrons Anne Bénédicte-Hoffner du service religion du quotidien La Croix, avec qui nous sommes en partenariat, et puis le père Jean-Jacques Pérennes, directeur de l'école biblique et archéologique de Jérusalem, ancien directeur de l'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales du Caire, et qui est l'auteur d'une grande biographie consacrée à Monseigneur Pierre Claverie, évêque d'Oran, mort dans la déflagration de la bombe, placée devant son domicile le 1er août 1996. Grâce à la chaîne de télévision catholique KTO, nous avons pu suivre la messe de béatification hier et vendredi la veillée de prière dans la petite cathédrale Sainte-Marie du centre Pierre Claverie. Une veillée intense sous le signe de l'amitié entre chrétiens et musulmans avec les témoignages des anciens de cette petite église d'Algérie et aussi des familles. Et nous allons entendre le témoignage de frère Jean-Pierre, plus de 90 ans, l'un des deux rescapés du monastère du Tibrine. Il était là le jour de l'enlèvement des 7 moines. Et puis, on entendra Anne-Marie, la sœur de Pierre Claverie, aux côtés de la mère de Mohamed Bouchiri. Mohamed, le chauffeur de Monseigneur Pierre Claverie, il savait qu'il risquait sa vie en travaillant pour les chrétiens et il est mort aux côtés de Monseigneur Claverie.
La première chose que je vais vous dire, c'est ma joie d'être parmi vous en cette veillée et en ce temps de la célébration de la béatification de nos frères, de nos 19 frères et sœurs qui ont donné leur vie. Qui ont donné leur vie par amour pour l'Algérie et pour le peuple algérien et pour la gloire de Dieu. Alors, pour revenir à cette parole de l'Évangile, les uns ont été enlevés, les autres laissés. Cette parole de l'Évangile que Jésus a dite, a toujours été mystérieuse pour moi, et voilà que je l'ai vécue. Les uns ont été enlevés, d'autres ont été laissés. Qu'est-ce que ça signifie ? Pour moi, cette parole a continué à vibrer en moi pendant quelque temps. Je me tourmentais un peu, je me disais, est-ce que mon cœur n'était pas prêt ? Est-ce que ma lampe n'était pas allumée ? C'est-à-dire que le Seigneur ne me jugeait pas digne d'être pris avec mes frères.
On m'a demandé de dire ce que signifiait cette béatification pour moi. Je vais parler principalement de mon frère, mais ce que je vais dire peut très bien s'appliquer à ses compagnons, du moins pour la plupart. Pour moi, ça consiste moins en une reconnaissance de certaines vertus de mon frère. Vous savez qu'il en avait beaucoup, et je suis même d'accord, et pourtant je suis sa sœur cadette, mais il en avait. Mais c'est moins pour cela... C'est une reconnaissance pour moi de la portée de son message qui a été si bien exprimé dans le texte « Humanité plurielle » que peut-être vous connaissez. Particulièrement, je retiendrai le fait qu'il disait qu'il ne possédait pas Dieu ou la vérité et qu'il avait besoin de la vérité des autres. Et je pense également qu'il s'agit d'une reconnaissance de la valeur de l'Église d'Algérie, de cette petite Église comme exemple pour l'Église universelle, avec son idéal de présence, son souci de rencontre et son témoignage d'un amour désintéressé, tel que l'entendaient Pierre et ses compagnons. Lorsque j'ai appris que Pierre allait être béatifié, j'ai immédiatement pensé à ce qu'il avait écrit dans sa lettre hebdomadaire à notre famille au moment où il est devenu évêque. Cette fonction allait lui permettre d'étendre la trame d'amitié qu'il avait tissé au cours de ses années à Alger. Ce serait une chance pour lui d'agrandir cette trame et de mieux connaître et apprécier son pays natal et ses habitants. La passion de Pierre était donc bien de connaître en profondeur et d'apprécier l'autre, d'essayer de le comprendre, de le rejoindre dans le respect de sa différence.
Vous m'excusez, je ne vois pas bien ce qu'il va me lire. Allez-y. Que
pas. Alors, donc, en tant que mère de Mohamed, qui nous a quittés avec notre bien-aimé Pierre Claverie, je suis très ému de ces retrouvailles fraternelles, car nous avons bien compris les uns et les autres leur message d'amour universel, et nous n'avons pas le droit de ne pas les entendre. Ce serait les trahir. Puissent les hommes dans le monde entier, les entendre et construire la paix tous ensemble.
Merci. En ligne de rang, donc, Anne-Bénédicte Hoffner. Anne-Bénédicte, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Vous avez signé dans le quotidien La Croix tout au long de la semaine des reportages, des articles de fond, des entretiens pour expliquer qui étaient ces 19 religieuses et religieux, ce qu'ils vivaient en Algérie, pourquoi elles avaient voulu rester malgré la menace du terrorisme islamiste qui pesait sur eux parce que ils étaient chrétiens, parce qu'étrangers, parce que français, parce qu'hommes de paix, tout cela à la fois. Alors, depuis hier, ils sont déclarés bienheureux. Qu'est-ce que cela va changer pour cette église d'Algérie, cette petite église d'Algérie que vous avez largement côtoyée ces jours derniers ?
C'est un événement absolument historique, je pense, pour l'église d'Algérie, qui intervient à un moment important, en fait, dans son histoire. C'est que, à la fois, ces martyrs qui ont été célébrés hier sont très proches, et en même temps, l'église d'Algérie a déjà évolué depuis la décennie noire. En fait, là, son visage maintenant, le visage qu'elle offre aujourd'hui n'est plus du tout le même que celui évidemment, qu'elle offrait pendant cette décennie noire, cette décennie de violence. Aujourd'hui, elle est multiculturelle et vraiment, ça saute aux yeux. Et elle, alors déjà, ce qui a changé par rapport à la décennie noire, c'est que les églises sont pleines. Il y a des fidèles qui sont revenus. Il y a beaucoup d'étudiants subsahariens, des migrants aussi qui viennent à la messe. Et puis même, en fait, finalement, les religieux et religieuses qui sont toujours nombreux en Algérie, un peu moins qu'avant, mais quand même, viennent de tous les pays. Ils viennent des Philippines, ils sont indiens, ils viennent d'Afrique subsaharienne, beaucoup, des Polonais, des Italiens, vraiment de partout. Donc c'est une église extrêmement... C'est ça, un peu finalement un laboratoire de ce que ça pourrait devenir dans d'autres pays par son caractère multiculturel. Et donc c'est cette église-là aujourd'hui qui doit s'approprier finalement la mémoire des bienheureux. Et donc cette mémoire, elle est quotidienne parce qu'en fait déjà, tous disent, même ceux qui ne les ont pas connus, qui sont arrivés récemment, disent « les gens nous en parlent ». Que ce soit la communauté du chemin neuf qui est à Tibirine, les sœurs Notre-Dame des Apôtres qui n'ont pas connu les anciennes, enfin toutes les pères blancs qui maintenant sont africains disent, les gens nous disent, nous parlent sans cesse du témoignage donné par ces bienheureux. Et finalement, ils vivent énormément dans la suite de des liens qu'ont créés ces bienheureux avec des Algériens. Et en même temps, ils apportent ce qu'ils sont, c'est-à-dire un rapport différent à l'islam, un rapport différent à l'Algérie. C'est des gens, ils le disent très clairement, hein, les subsahariens, ils disent nous, on porte pas le poids de la colonisation, on n'est pas français, donc on n'arrive pas du tout avec le même rapport avec les Algériens. Donc il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et en même temps, on sent, c'est ça, qu'il y a vraiment un héritage qui est extrêmement présent et vivant. Alors c'était ça aussi qui était extrêmement touchant là pendant ces célébrations, c'est que on voit que les liens qui ont été tissés par les anciens avec des amis algériens, donc musulmans, sont en fait le terreau sur lequel les chrétiens aujourd'hui en Algérie peuvent exercer leurs œuvres, donc que ce soit des bibliothèques, des cours de gym, des cours de français, des cours de couture, de la promotion féminine, tout un tas de choses qui se font en permanence avec des Algériens.
Alors, j'ai été marquée, moi, parce que j'ai regardé, malheureusement, ne pouvant être sur place, j'ai regardé la cérémonie et la veillée de vendredi soir à la télévision. Merci, Kateo. J'ai été frappée par les messages adressé au monde musulman. Déjà, il y avait la confrérie soufie Alaouia, de Cheikh Bentounes, qui était donc présente et qui a chanté tout au long de la veillée de prière le vendredi soir avec tous ses témoignages. Et puis bon, il y avait la mère de Mohamed Bouchiri, donc Mohamed qui a été tué avec Monseigneur Pierre Clavry qui était là, il y avait son témoignage. Enfin, c'était assez bouleversant, je dois dire, même à la télévision, Anne-Bénédicte.
Mais effectivement, en fait, moi, pendant cette veillée, je me disais, mais il n'y a qu'en Algérie qu'une béatification prendrait cette forme. C'est-à-dire que ce qui est très particulier, c'est que le témoignage qu'ont donné ces bienheureux et la raison même pour lesquelles on les a béatifiés, la raison pour laquelle l'Église universelle leur rend hommage, c'est parce qu'ils ont vécu comme chrétiens dans un pays majoritairement musulman et au milieu de musulmans, sans prosélytisme, mais en essayant vraiment de vivre une amitié qui vient de Dieu. Donc je trouvais que ça, cette formule-là qui était souvent répétée hier et qui était incarnée effectivement dans ces témoignages à deux voix. Il y avait souvent la sœur de Monseigneur Pierre Clavry avec la mère de Mohamed, le fils de Mohamed, l'Algérien qui a sauvé la vie à Christian de Chergé pendant la guerre d'Algérie, qui lançait un appel à la famille de Chergé. Enfin, en permanence, on avait ces espèces de duos ou de témoignages qui se répondaient et qui montrent que en Algérie, alors c'est pas le seul pays où c'est comme ça, mais en tout cas, compte tenu de l'histoire de ce pays, de cette église, en tout cas, c'est assez fort et ça imprègne vraiment la vie des chrétiens qui y vivent. Leur manière d'être chrétien n'est jamais cantonnée à l'intérieur de la paroisse ou du diocèse, etc. Ils vivent au milieu de musulmans et leur manière de se penser comme chrétien est toujours articulé avec une altérité, une vraie forme d'amitié, de respect et d'envie d'entrer en contact avec des musulmans.
Je vous remercie, Anne-Bénédicte Hoffner, donc pour ce témoignage. Alors, on peut retrouver vos articles, tous vos articles en ligne. Et aujourd'hui, vous allez accompagner des familles à Tibrine, c'est cela ?
Oui, exactement.
Donc,
elles vont avoir un moment de recueillement et puis elles vont pouvoir célébrer la messe à Tibirine. Et puis, donc, pour certains, alors c'est ça qui est assez touchant. Il y aura certains jeunes, alors j'ai vu qu'il y avait des étudiants, des lycéens, qui sont des petites nièces ou des petits neveux des moines de Tibérine, et qui vont venir pour la première fois se recueillir sur la tombe de leurs grands oncles ou voilà, des membres de leur famille, quoi.
Je vous remercie, Anne-Bénédicte. Merci. À vos côtés, Anne-Bénédicte, le frère Jean-Jacques Pérennès. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Geneviève.
Alors, vous êtes dominicain, hein, comme Monseigneur Pierre Claverie. Merci déjà avec nous d'être en ligne. Alors, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, et notamment une grande biographie sur Pierre Claverie aux éditions du Cerf, qui s'intitule « Un Algérien par alliance ». La mort de Pierre Claverie, vous avez évidemment profondément marqué. Alors, cette journée d'hier, vous l'avez attendue. Comment vous l'avez vécue?
Écoutez, j'ai l'impression d'avoir vécu quelques heures sur un petit nuage, dans un moment de bonheur d'une rare qualité. Il faut dire que ce sanctuaire de Santa Cruz domine la ville d'Oran. La vue sur la baie était splendide. Le ciel était d'un bleu sans nuages. Et l'air que nous respirions était un air d'amitié, de gratitude, de paix intérieure. Pour nous qui avant d'écrire, nous avons pleuré, vous savez, nous étions là avec des centaines de membres de ces familles et il y a 20 ans, nous étions dans les larmes, dans le chagrin. Et c'était véritablement un moment nous avons dépassé cette étape, une certaine guérison s'est faite dans nos cœurs. Et c'était un grand bonheur de pouvoir célébrer hier soir cette veillée de prière avec tous ces amis musulmans. Et aujourd'hui, cette béatification en présence de dizaines d'autorités algériennes, ministre, préfet, ambassadeur, une présence extrêmement significative. Donc je dirais, voilà, c'était un moment de grand bonheur et je pense que ça donnera de la force intérieure à beaucoup.
Alors, un moment de grâce, et puis il faut quand même souligner que cette béatification en terre d'islam, Père Jean-Jacques Pérennès, eh bien c'est une première. Il n'y a jamais eu de béatification en terre d'islam avant.
À mon avis, c'est complètement historique. Et c'est là d'ailleurs le paradoxe de ce pays, l'Algérie, qui quelquefois est compliqué et qui en même temps est capable de nous réserver des surprises les meilleures. Effectivement, ça n'a été possible qu'à cause d'un engagement au plus haut niveau des autorités algériennes, de la présidence, du ministre des Affaires religieuses, du Wali, donc du préfet d'Oran. Ça a supposé un déploiement considérable de forces de sécurité, d'organisation, de moyens audiovisuels. Enfin, c'était très spectaculaire. Mais en même temps, je dirais que c'était pas simplement un énorme appareil administratif qui s'était mis en place. On sentait la cordialité, on sentait que tout le monde était heureux. Il y a eu un moment, par exemple, tout à fait imprévu au cours de la célébration. Vous savez qu'au cours de la messe, il y a un moment où on donne le baiser de paix.
Oui.
Alors, quelques prêtres et deux ou trois évêques sont allés donner le baiser de paix dans le quartier des imams. Il y avait peut-être 15 ou 20 imams. Et il y a une salve de you-you qui s'est déclenchée. Tout le monde s'est levé, s'est mis à applaudir. Et ce sont des petits moments comme ça. Ils sont des moments qui montrent que l'Algérie a vraiment mis les moyens pour réussir cet événement. Et nous l'avons vécu, c'est un succès très au-delà de ce que nous pouvions rêver et imaginer.
Justement, est-ce que vous pensez que ça aura une portée en Algérie? Bon, il y a le dialogue islamo-chrétien, ça c'est certain, c'est un pas certainement important. Même pour l'Algérie, par rapport à son passé, à cette mémoire douloureuse, est-ce que vous pensez que, bon, ça ouvre d'une certaine façon quand même, cette béatification ouvre une brèche dans ce passé?
Oui, l'Algérie a vécu un drame, hein, et c'est d'ailleurs été une des questions sur l'opportunité de célébrer cette béatification en Algérie, parce que finalement, nous avons porté sur les autels nos 19 bienheureux, mais en même temps, il y a eu 150 000 morts dans ce pays. Il a été beaucoup question, au cours de la célébration, des 114 imams qui eux-mêmes ont été tués. Et donc, c'était un vrai défi. Est-ce que c'était opportun? Et je crois que, on ne sait pas comment l'Algérie pourra guérir, parce qu'elle n'a pas encore véritablement pu faire ce travail de réconciliation par rapport à la décennie noire. Mais ce dont, au moins, nous avons pu témoigner, c'est que nous avons, non pas tourné la page, nous avons guéri nos cœurs. Et que nos larmes sont un peu derrière nous, et aujourd'hui nos larmes sont davantage de bonheur. Et le fait que nous puissions leur dire, écoutez, voilà, la vie continue, on peut tourner les pages et on peut se guérir, se consoler intérieurement et créer un nouveau lien avec les autres, quoi. Et il a été beaucoup question, au cours de cette béatification, dans les différents textes qui ont été prononcés, d'aller vers l'avenir, d'aller vers une société de paix, une société de réconciliation. C'est quand même la grande question, pas seulement pour l'Algérie d'ailleurs, c'est une question de notre monde. C'est une question dans ce monde qu'on dit mondialisé et où en même temps les frontières se construisent, s'érigent, on a peur de l'autre, les migrants sont refusés. Donc la question du rapport à l'altérité, je trouve que l'Église d'Algérie a quelque chose à dire là-dessus et le fait qu'elle ait pu le dire de manière extrêmement solennelle avec toutes ces autorités algériennes laisse augurer de beaux développements dans l'avenir, Inch'Allah.
Alors, Monseigneur Pierre Clavry a été très au centre de cette cérémonie. En général, quand on parle des martyrs d'Algérie, souvent, bon, on pense davantage aux sept moines tibrines. Mais là, il a été très au centre. C'est normal, puisque on était dans sa ville. Il a été donc l'évêque d'Oran.
C'est aussi un peu le cléricalisme de l'Église.
Oh, vraiment ?
C'est-à-dire que, évidemment, l'évêque est toujours mis en premier, je veux dire. Bon, c'est comme ça. Mais bon. C'était très important que les moines ont été très médiatisés, parce qu'évidemment c'était très spectaculaire cet enlèvement et cet assassinat de sept moines. Il y a eu ce film extraordinaire des hommes et des dieux, et d'une certaine manière, c'est vrai que les pères blancs, les religieuses, étaient un peu tombés dans l'oubli.
On les connaissait moins, oui.
Aujourd'hui, il a été très, très important de mettre en évidence, non seulement en évoquant leur nom, mais en évoquant ce qu'ils et elles ont fait, n'est-ce pas, la sœur Paul-Hélène, la sœur Esther, la sœur Caridad. Ils étaient aussi très présents, donc c'était très beau tout ça.
Quel est l'héritage, précisément, Père Jean-Jacques Pérennes, l'héritage de Pierre Clavry, qui a quand même un parcours particulier. Pierre Clavry était né en Algérie, et il dit qu'il avait vécu longtemps dans une bulle coloniale, et qu'un jour il a réalisé une véritable conversion en se rendant compte, effectivement, qu'il y avait autour de lui des musulmans qu'il ne connaissait pas.
Oui, il a fait un chemin intérieur qui d'ailleurs a été douloureux, puisque ça s'est produit au moment où, arrivant en France pour ses études, il découvre, je dirais, le regard politique sur la guerre d'Algérie. Il était dans le monde colonial, pieds noirs, et voilà, pour lui, c'était les événements d'Algérie, c'était pas une guerre de libération nationale. Et donc il a douloureusement vécu cette étape, mais il avait aussi de la qualité, ses parents l'accompagnaient, il a véritablement fait un chemin. Et donc je pense que ce qu'il nous apporte, c'est une invitation à la rencontre de l'autre dans la confiance et dans la vérité. Souvent, il y a de la langue de bois dans le dialogue interreligieux. On essaie de gommer ce qui fâche, on essaie de gommer les différences. Et Pierre, au contraire, disait, il l'a fait par exemple dans une conférence remarquable à la mosquée de Paris, commençons par reconnaître d'abord que notre passé mutuel est blessé et conflictuel et plein de polémiques. Reconnaissons nos différences. Et même, disait-il, l'abîme qui nous sépare. Et à partir de ça, dans cette vérité mutuelle, non seulement acceptons-nous, mais construisons quelque chose ensemble. Donc je pense que Pierre Clavry apporte sur le dialogue interreligieux un regard très original, où il n'y a pas du tout de langue de bois, et dans lequel je pense que nos sociétés d'aujourd'hui peuvent puiser pour les défis auxquels nous aussi nous sommes affrontés en France et ailleurs.
Je vous remercie, Père Jean-Jacques Pérennes. Je rappelle donc votre livre, Pierre Clavry, un Algérien par alliance. Et c'est publié aux éditions du Cerf. Merci.
Merci de nous avoir rejoints dans ce très grand moment.
1400 personnes environ avaient fait le déplacement à Oran pour vivre la cérémonie de béatification. Les membres des congrégations, des religieuses et des religieux, les familles venues de France et puis aussi des citoyens algériens liés par l'amitié et la reconnaissance envers ces religieux qui sont restés auprès du peuple algérien. Comme Faouzia, au micro de Leïla Barato, notre correspondante en Algérie.
Je voulais vraiment insister, je voulais être présente avec eux. Je voulais ressentir ce qu'ils ressentent.
Et pourquoi c'était important pour vous ?
Parce que c'est un mélange de cultures. Et eux aussi, ils ont donné leur vie pour nous.
Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi finalement, je ne suis pas là parce qu'ils sont chrétiens, je suis là parce que c'est des gens qui sont morts pendant les années 90. Est-ce que vous, c'est...
Effectivement, même moi, j'avais une discussion avec des Français, on m'a dit, j'ai dit, ils se sont donné leur vie pour nous les Algériens. Ils ne voulaient pas partir, ils avaient la possibilité de quitter l'Algérie, et peut-être ils sont toujours vivants, mais ils ont choisi de rester parmi nous.
Et ça veut dire quoi pour vous ? Enfin, qu'est-ce que ça signifie ? Parce qu'il y a des gens qui comprennent pas ce que ça veut dire.
Oui, effectivement, oui. Mais pour moi, c'est très touchant. Bon, en tant qu'une personne, en tant qu'humaine, j'ai pas cherché la culture, j'ai pas cherché la religion, mais le fait de perdre une personne très chère, c'est ça.
C'était une période difficile pour les Algériens.
Ah oui, bien sûr. Moi aussi, j'étais jeune. Ça a commencé en 88. J'avais que 19 ans. Nous aussi, on a vécu le cauchemar. C'était l'enfer pour nous aussi.
Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le dialogue, le vivre ensemble, etc. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour la société algérienne, c'est important? Est-ce que ça existe déjà? Ou est-ce qu'il reste du travail ou...
Oui, ça existe, mais il faut le travailler aussi. Parce que c'est pas tout le monde. C'est vrai, c'est pas tous les chrétiens qui courtoient les musulmans. Et c'est pas tous les musulmans qui... je sais très bien qu'il y a certains musulmans qui acceptent pas qu'on travaille ou qu'on fréquente les chrétiens. Mais effectivement, je les ai fréquentés, mais eux, ils nous insistent pas à se convertir et tout. Là, on est deux êtres humains qui forment une seule personne. C'est vrai. Je travaille avec eux. On ne parle pas de religion.
Monseigneur Jean-Paul Vesco, dominicain, évêque de Rouen, se préparait depuis près d'un an à cette cérémonie historique dont il avait souligné à la fois le défi et les enjeux, il nous l'avait dit. Nous lui laissons le soin de la conclusion en reprenant son message hier qui a refermé la cérémonie, une cérémonie qui se voulait aussi tourner vers l'avenir.
Frères et sœurs, en terminant, chers amis, laissez-moi vous dire que le message de cette béatification, tous ensemble réunis, et d'affirmer que le XXIe siècle ne peut plus être celui de la concurrence religieuse entre croyants en un Dieu unique, à l'heure où notre maison commune risque de devenir inhospitalière en raison des mutations climatiques, à l'heure où le berceau de notre civilisation méditerranéenne commune, cette Mare Nostrum qui est là sous nos pieds, devient chaque jour le linceul d'hommes et de femmes, d'enfants qui voient leur espérance en une vie meilleure engloutie en même temps que leur vie. Puisse le signe d'Oran que nous avons posé ensemble en ce jour être un signe de fraternité pour le monde entier.
Je n'ai pas à me justifier, manifeste pour un islam retrouvé. C'est le titre du livre de notre invité, l'islamologue arabisant soufi franco-sénégalais, Sedi Diamil Nian, un livre publié aux éditions Erol. Derrière cette interpellation, trois grandes réflexions. En tant que musulman, ne pas être comptable de la violence des extrémistes, dont les musulmans sont les premières victimes. Un appel à la respiritualisation de l'islam, corseté par un juridisme qui dénature le message coranique, et puis un appel aussi à la fraternisation universelle qui peut être portée par les valeurs humanistes des religions. Dans ce livre préfacé par l'islamologue Rachid Benzine, on trouvera également de nombreuses références à ceux qui inspirent Sedi Diamil Nian, Averroès, Razali, mais aussi Aimé Césaire et Baudelaire. Sedi Diamil Nian, bonjour.
Bonjour Geneviève Delrue.
Vous avez 26 ans, c'est le troisième livre que vous publiez, avec ce titre singulier qui dit tout le contenu. Après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan de janvier et novembre 2015, puis de Nice en juillet 2016, vous avez voulu manifestement réagir, et si je traduis bien, en somme dire, eh bien, à chaque attentat, je n'ai pas à rendre compte sur ce qui fait ma foi et ma religion.
Effectivement, c'était ça. Et vous avez bien fait de revenir sur l'attentat du 13 novembre 2015, parce que là, il s'avère que juste trois semaines avant, il y a ma mère qui, du jour au lendemain, est décédée, et quand j'ai vu qu'il y avait un attentat, je me suis mis un peu à la place de ces personnes qui, peut-être une heure plus tôt, étaient en train de sourire, de manger avec leur mère, avec leur père, avec leurs époux ou leurs épouses, et qui, d'une minute à l'autre, apprennent que leur maman, leur papa ou leur mari, a été tué. Du coup, il y a cette angoisse de la mort qui est revenue un peu. Et du coup, il y a cette violence-là que je ne pouvais plus digérer, si vous voulez. Mais en même temps, après l'attentat du Bataclan, c'est-à-dire le 14 novembre, je me souviens bien, c'était un samedi, il y a un ami qui m'a appelé au téléphone et qui m'a dit « Oh là là, Djamil, qu'est-ce que vous avez fait encore ?» En fait, avant, c'est-à-dire quand il y avait des attentats contre Charlie Hebdo, contre les Pères Cachers, Mohamed Merah et tout ce qu'on connaît, il y a une question qu'on me posait souvent qui est moins grave, c'est-à-dire toi, en tant que musulman, qu'est-ce que tu en penses ?
Comment tu vis ça, quoi, oui.
Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que pour toi, ils sont des gens gentils? Est-ce qu'ils sont méchants? Est-ce que pour vous, ce qu'ils font, c'est l'islam et tout ça? Sauf qu'après le Bataclan, il y a quelqu'un qui est passé à une étape supérieure. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait? On est passé de qu'est-ce que tu à qu'est-ce que vous avez fait? Et là, on est passé aussi de qu'est-ce que t'en penses à que vous avez fait. Et le verbe faire, c'était très lourd pour moi et qui était aussi meurtri que la personne qui m'avait posé cette question. Et du coup, je voulais répondre surtout à cette personne pour lui dire que je n'ai rien fait et que même si je suis aussi meurtri que toi, je n'ai pas à me justifier.
Ce livre est préfacé par Rachid Benzine, qui est donc un islamologue très connu, qui travaille beaucoup pour la réforme de l'islam. Et il dit, c'est la confession d'un musulman du siècle. Alors là, il paraphrase la phrase de Musset. Effectivement, dans ce livre, vous voulez dire beaucoup de choses en bloc. Hein. Vous voulez dire cette indignation, vous voulez dire, vous, cet islam que vous aimez, que vous vivez, cet islam soufi que vous avez hérité de votre père. Hein. Vous appartenez à la confrérie soufie Tijaniya. Et en même temps, vous êtes universitaire. Et ce que vous voulez signifier, c'est qu'on peut articuler les deux, la foi et la raison, que la foi au XXIe siècle, effectivement, elle peut aussi, elle doit absolument s'accompagner de la raison et aussi de toutes les sciences, de l'apport des sciences humaines.
Oui, tout à fait, parce que l'islam, comme toutes les religions, ne peut pas être quelque chose hors sol qui vient comme ça tomber de la nature. Le Coran, quand il est venu au 7e siècle, bon, il s'adressait à des hommes qui n'étaient pas nous. Rachid Benzine, que vous citiez, dit souvent que il faut qu'on replace le Coran dans une altérité avant d'en faire quelque chose purement identitaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, avant d'essayer de savoir ce que le Coran me dit à moi, je dois essayer de comprendre ce que je suis en train de lire voulait dire dans sa société d'origine. Et là, on le fait à travers l'anthropologie et l'histoire. Et ça, c'est ce que j'ai étudié à l'université. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, on ne peut plus prendre des vérités comme ça et de les prendre sans les remettre sur la balance de la recherche scientifique qui prend tout à fait en compte les sciences humaines et sociales. Mais j'ajoute que ça, ce n'est pas nouveau, le fait d'essayer d'allier la raison et la révélation. C'est Imam Ghazali, qui est mort en 1111, qui avait écrit un livre, L'incohérence des philosophes, où il a étudié la philosophie de manière incroyable pour la réfuter purement et simplement. Et environ un siècle plus tard, il y a Averroès qui vient écrire un autre livre qui s'appelait L'incohérence de l'incohérence pour répondre justement à Imam Ghazali. Mais Averroès a écrit un autre livre, nous sommes au 13e siècle, hein, qui s'intitulait Le discours décisif, où il dit que la vérité, la révélation est une vérité, mais aussi la vérité philosophique qu'on peut avoir par la démonstration logique et aussi une vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand les deux vérités s'affrontent? Il avait dit, dans ce cas, il faut prendre en compte la vérité de la raison et de relire la révélation à la lumière de la raison et de ne pas faire l'inverse. Du coup, c'est une question qui remonte de loin, sauf qu'il y a une sorte, si je puis dire, une sorte d'amnésie intellectuelle chez une bonne partie de mes co-religionnaires qui, malheureusement, pense que la raison et la révélation ne sauraient cohabiter. Au XXIe siècle, ce discours est assez problématique.
Alors, on va poursuivre avec vous sur ce thème, Sidi Djamil Niaan. Mais avant, je voudrais quand même vous resituer, moi, dans votre contexte, hein, si vous le permettez. Vous êtes né dans un village au nord du Sénégal, voilà. Et votre père, donc, pour élever ses 11 enfants, puisque donc il a plusieurs épouses, eh bien, travaillait sur les marchés, c'est bien cela, en Alsace.
En Alsace, effectivement, il faisait les marchés hebdomadaires, pas seulement à Strasbourg, où il faut juste avoir une camionnette, une bâche et quelques affaires à vendre. Du coup, lui, il vendait des sacs, des ceintures et des porte-monnaies.
Et c'est grâce à cela qu'il a pu élever tous ses enfants.
Oui, c'est grâce à ça qu'il a pu élever ses enfants. C'est grâce à ça qu'il a pu payer les billets à ses enfants qui ont eu le bac pour venir continuer leurs études en France. Si on veut vraiment s'entendre avec lui, il faut vraiment aller le plus loin possible dans
les études. Il faut bien travailler. Alors vous, donc, vous allez étudier l'arabe?
Oui, j'ai étudié l'arabe à Louga déjà, au Sénégal. C'était dans une école franco-arabe. C'est là où j'ai étudié les premiers versets du Coran et la tradition prophétique. Sauf que le problème, c'est que il n'y avait pas cette distance critique. C'est-à-dire, on était souvent dans une démarche de foi quand il s'agissait d'étudier la religion. Du coup, bon, on a subi un peu ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un catéchisme religieux. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui même, il y a d'autres idéologies qui viennent s'implanter dans cette école et dans d'autres écoles. Du coup, ça devient de plus en plus compliqué. Mais en tout cas, c'est là où j'ai commencé à étudier. Et c'est en 2010 que je suis sorti de la même école avec un baccalauréat de l'état du arabe. Mais en même temps, de 2002 jusqu'à l'obtention de mon bac, je suivais les cours traditionnels dans ce qu'on appelle au Sénégal. Dans l'Afrique occidentale, madjali, c'est-à-dire il fallait qu'on ramène nos livres nous-mêmes et on s'asseyait par terre autour du maître spirituel, du maître coranique qui nous explique la religion, qui nous expliquait la spiritualité. C'est là où, âgé de 17 ans, j'ai été initié à la Tijaniya. J'ai étudié là-bas les bases de la théologie, du droit malikite et du soufisme aussi.
Alors, il y a peu d'islamologues africains, en fait.
Oui. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Et ce qu'on appelle les islamologues sont surtout des théologiens et qui, en tout cas, délivrent un discours de vérité. Et l'islamologie n'est pas là pour délivrer un discours de vérité. Elle est là pour expliquer, pour essayer de comprendre et pour analyser dans la plus grande distance critique. Il n'y en a pas beaucoup en Afrique, malheureusement. Peu d'islamologues travaillent sur l'Afrique. On a laissé ça aux sciences politiques et aux anthropologues et aux sociologues.
Alors vous avez une grande ambition pour l'islam, dans la mesure où vous voulez effectivement, c'est aussi une grande partie dans votre livre, vous voulez respiritualiser en quelque sorte l'islam. Aujourd'hui, vous estimez que la seule vitrine que l'islam offre, du fait des médias que vous attaquez d'ailleurs assez crûment, que la seule vitrine offerte, c'est le radicalisme et qu'on a totalement oublié la spiritualité. Mais est-ce que l'islam aujourd'hui n'est pas malade quand même d'un radicalisme, hein? Faut peut-être pas tout mettre sur le dos des médias.
C'est aussi ça. Tout à fait. Je pense que j'ai un peu nuancé aussi. Mais effectivement, c'est que il y a quand même un proverbe africain qui dit que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Voilà. Ouais. C'est ça le problème. C'est que ces gens-là, qu'on appelle des radicaux, bon, on ne sait même pas qui ils sont, parce que si on regarde, en tout cas, ceux qui sont d'influence saoudienne, bon, ils vont suivre le salafisme, mais les talibans, par exemple, ils ne sont pas du tout salafistes. D'un point de vue juridique, ils sont des hanafites, les hanafites qui est quand même l'une des écoles les plus rationalistes, et d'un point de vue théologique, ils sont des maturidites qui est une branche de l'acharisme, que détestent d'ailleurs les salafistes. Du coup, c'est quand même une chose très complexe, ce qu'on appelle les radicaux. Mais moi, ce que je reproche un peu, et à mes co-religionnaires, et aux autres, et surtout à mes co-religionnaires, avant de le reprocher aux autres, c'est cette tentation qui consiste à vider l'islam de sa spiritualité. Aujourd'hui, dans la quasi-totalité des manuels scolaires, on explique comment prier, comment faire son ablution. Si par exemple, il y a une erreur dans le mariage, comment on règle ça? Ce sont des choses pratiques.
Normatives.
Dogmatiques, pratiques. Où on passe notre temps à discuter si Dieu est assis sur son trône ou pas. Après, moi, je me dis, s'il est assis sur son trône ou pas, qu'est-ce que ça peut m'apporter, moi, personnellement?
Ça ne change pas grand-chose.
Et il y a peu de réflexion aujourd'hui qui va, en tout cas, essayer de redynamiser la spiritualité. Il y a Éric Geoffroy en France, qui était mon directeur de thèse, et d'ailleurs professeur pendant 5 ans avant de diriger mon mémoire, puis plus tard ma thèse de doctorat. Il a écrit un livre magnifique, un peu provocateur d'ailleurs. L'islam sera spirituel ou ne sera plus, où il nous montre que, à un moment donné, il y a eu une inversion des sens et que ce qui devait être, en tout cas, fondamental dans la religion devenait de plus en plus marginalisé.
C'est-à-dire qu'on est obsédé par le halal et le haram.
C'est effectivement ça. Et que, même parfois, il y a On peut avoir des exemples un petit peu pathétiques, si on peut dire ça.
Ouais, parce que,
voilà, ça c'est Geoffroy qui nous racontait. Il était dans un pays arabe et à un moment donné, il passe devant une boutique, il voit quelque part, il est écrit l'eau halal. Et la question qui s'est posée, où est-ce qu'on peut trouver de l'eau haram? Du coup, et puis le halal est devenu aujourd'hui une sorte de business, un petit peu...
Un business.
Un business où on essaye d'allier le capitalisme et la religion, mais de mon point de vue, c'est surtout pour gagner plus d'argent. Et le halal, ce n'est pas que dans la viande et dans l'ablution. On passe notre temps à avoir des débats sur est-ce que oui ou non, on peut... demande à l'intercession du prophète, est-ce que c'est halal ou c'est haram? Est-ce que le fait d'avoir un maître spirituel, c'est halal ou c'est haram? J'ai fait ma thèse de doctorat sur le conflit entre le wahhabisme et la tijaniya en Afrique au sud du Sahara, en prenant l'exemple du Sénégal. Il n'y a que des débats sur ça. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est interdit? Il y a peu de réflexions, en tout cas, qui essayent de redonner plus de place à la spiritualité.
Plus de vigueur. Mais alors, précisément, au Sénégal, par exemple, est-ce que c'est l'influence wahhabite qui a effectivement poussé dans ce sens-là?
Oui.
Elle est forte, cette influence.
Oui, l'influence wahhabite est très, très forte au Sénégal pour deux raisons. Ils sont très bien organisés. Ils ont un soutien financier qui est quand même assez important et que même parfois l'État du Sénégal
les laisse faire
et les aide. Parce que là, il vient de donner 70 000 mètres carrés à l'un des au plus grand salafi wahhabite sénégalais pour qu'il transforme sa faculté africaine des études islamiques en une université où on forme des Sénégalais. Du coup, il y a tout ça. Mais de l'autre côté, les confrères soufis ne font pas le travail. Leur discours est un petit peu archaïque. C'est-à-dire, on est souvent dans les merveilles. Tel maître spirituel a fait tel miracle pour rallumer la flamme émotive des disciples, mais il n'y a pas forcément de réflexion de fond de la part de la nouvelle génération soufie, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, les salafistes gagnent de plus en plus de place au Sénégal.
Vous estimez que le soufisme est en panne au Sénégal
actuellement? Oui. Il y a mon collègue Bakary Sam qui a écrit un article très intéressant intitulé « Le soufisme doit se réformer ». Pour eux, si en tout cas il veut récupérer ceux qui sont tentés par l'offre salafiste. Parce que l'offre salafiste est très intéressante au Sénégal.
Qu'est-ce qu'elle propose, par exemple?
Ils vont parler de tout. Par exemple, nous, pendant que les confréries vont passer leur temps à parler de... Pas tous, hein. Il y a des gens quand même qui essayent de proposer quelque chose. En tout cas, quand la plupart, en tout cas, passent leur temps à vanter les miracles de Cheikh Ahmadou Bamba, d'El Hadji Malik, les salafistes vont nous dire, mais écoutez, il y a cette question politique, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont très actifs dans le monde, dans le domaine social, ils vont proposer des actions humanitaires, ils vont se positionner sur l'écologie, sur le conflit israélo-palestine, ainsi de suite. C'est ça qui intéresse la nouvelle
génération. Ils sont en prise avec l'actualité, quoi, c'est ça? Et avec la vie quotidienne.
Effectivement, hein. L'imam de la mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a été un peu...
Oui.
Qui est salafiste, comme la mosquée de l'université Gaston Berger, est dirigée par les salafistes. Chaque vendredi, ses prêches qu'il fait les vendredis, le soir, on les retrouve sur YouTube. Pendant ce temps, les soufis ne font pas vraiment beaucoup de choses.
RFI, la radio du monde.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invité est Sedi Djamil Nian pour son livre « Moi, musulman, je n'ai pas à me justifier, manifeste pour un islam retrouvé » et c'est aux éditions Erol. On poursuit encore quelques instants avec vous, Sedi Djamil Nian, sur l'Afrique. Comment expliquez-vous effectivement que les africanistes ne se soient pas davantage saisis de ce phénomène, justement, de cette poussée du salafisme au détriment du soufisme?
Oui, bon, même s'il y a quelques-uns quand même qui s'intéressent à cette question depuis un moment, le problème c'est que la plupart des africanistes aujourd'hui n'ont pas accès aux textes arabes pour une bonne et simple raison, ils n'ont pas fait d'études arabes et qu'il y a une forte littérature religieuse islamique au Sénégal. Je prends l'exemple de Dr Ahmed Lo qui a été formé en Arabie Saoudite et qui aujourd'hui a fondé au Sénégal, après avoir créé une association salafiste, a fondé la faculté africaine des études islamiques et qui va transformer cette faculté, grâce à l'appui de l'État, en une université plus grande. Il avait écrit un livre il y a longtemps qu'il avait intitulé « Taqdis al-Ashras fil Fikr Soufi » qui veut dire « La sanctification des êtres humains dans la pensée soufie » où il critique de manière incroyable tous les grands maîtres spirituels du soufisme. Ce qui se passe, c'est que après il y a un autre quand même Tijane arabisant qui a écrit pour lui répondre. Mais j'ai pris ces deux exemples pour vous dire quoi. Les anthropologues qui ont travaillé sur le salafisme et la Tijane, il n'y a aucun qui a traité cette problématique. Il n'y a aucun qui s'est rendu compte qu'il y a un Sénégalais qui a écrit un livre de 2 tomes publié en Arabie Saoudite où il s'attaquait au soufisme. Et qu'il y a un Tijani qui a publié un autre livre pour lui répondre. Du coup, il y a cette un peu infantilisation de l'islam africain qu'on a réduit à l'anthropologie, à des pratiques sans aucun peut-être fondement intellectuel. Et c'est ça qui m'a poussé dans mes études universitaires à m'intéresser à l'Afrique, mais d'un point de vue islamologique.
Alors, sur la question de l'appel à la violence que l'on trouve dans certains versets du Coran, vous insistez sur le fait qu'ils doivent être remis dans leur époque. C'est ce que l'on appelle la contextualisation historique.
Oui, il faut surtout pas les prendre comme ça. C'est comme si quelqu'un venait nous dire qu'un sang impur abreuve nos sions. À chaque match de foot, on le chante, on chante la Marseillaise et qu'on est tout le temps, toujours content à la chanter quand les Bleus gagnent. Et j'espère qu'on va continuer à chanter. Mais cette phrase comme ça, quand on vient comme ça le dire, ça va être compliqué. Mais quand on prend un peu de distance critique et historique, on comprend et on peut même être fier. Et c'est un peu ça. Et même, il y a des anthropologues, par exemple, quelqu'un comme Jacqueline Chabi, qui va beaucoup plus loin, qui va nous dire que ces versets-là ne sont rien d'autre, ne faisaient écho à une violence
entre clans.
Du coup, quand quelqu'un au 21e siècle prend le livre, qui est quand même petit, le Coran, qui est quand même très petit en volume, et qui n'a aucune explication, ça peut poser problème. Mais en tout cas, ces versets du Coran existent. Ces versets sont violents et qu'il y a beaucoup, nul n'est plus naïf que celui qui vient dire que l'islam c'est que de la paix et que le Coran c'est purement humaniste.
De même, on a pu entendre des responsables politiques, hauts responsables politiques, probablement dans un souci d'apaisement d'ailleurs, hein, mais dire au moment des attentats, ça n'est pas ça l'islam.
Oui, bon. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça c'est une phrase qui ne veut rien dire parce que ça. Il faudra d'ailleurs qu'on commence intellectuellement par définir qu'est-ce que ça veut dire l'islam. Parce que si on regarde par exemple dans la tradition exégétique et dans la production juridique, on peut trouver de quoi légitimer Charlie Hebdo. Par exemple, Ibn Taymiyyah avait écrit un livre au 13e, 14e siècle intitulé « L'épée qui tranche la gorge de celui qui insulte le prophète ». Du coup,
c'est clair.
Même les Malikites disent que celui qui insulte le prophète, il faut le tuer. Mais ce que je voulais, en tout cas, montrer dans ce livre, c'est qu'il peut y avoir des musulmans, peut-être, qui ne peuvent pas être prisonniers d'une lecture, et surtout pas d'une seule lecture, un petit peu idéologique, vidée de toute spiritualité. C'est pour ça, quand on dit ça, c'est ça l'islam, ou ça n'a rien à voir avec l'islam. Pour moi, les deux phrases ne veulent rien dire.
Elles sont aussi fausses l'une que l'autre.
Les deux phrases sont aussi fausses parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça a à voir avec l'islam, mais ce n'est pas que ça l'islam. Il y a un peu ça, mais ce n'est pas que ça. Et ça, c'est une même partie minoritaire. En tout cas, si on prend le Coran, les versets normatifs représentent moins de 3%. Il faut, de mon point de vue, lire ces 3% à la lumière de ces 97% pour voir, en tout cas, la lecture qu'on pourrait en avoir aujourd'hui.
Merci Sedi Djamil Onyan.
Merci.
Donc je rappelle le titre de votre livre, « Moi musulman, je n'ai pas à me justifier, manifeste pour un islam retrouvé chez Erol ». C'est la fin de Religion du Monde, présentée par Geneviève Delru et réalisée par Olivier Raoul. À dimanche prochain, bonne semaine à tous.